Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a le plaisir aujourd'hui de retrouver Jornan Vial pour sa chronique Kabbalah et perception du réel. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick et bonjour à tous.
Alors on t'écoute.
Merci. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous percevez est bien le réel ? Notre conscience de perception nous donne l'impression d'accéder directement au monde. Et c'est pour nous tous une évidence. Mais est-ce bien le réel que nous percevons, ou bien la forme qu'il prend en nous ? Voici la question que je vous propose de visiter aujourd'hui dans cette 15e chronique. Nous pensons tous voir le monde tel qu'il est. Et nous avons la certitude que le monde est réel puisque nous le partageons. Mais ce n'est pas une preuve du réel. C'est une cohérence collective de perception. Ce que nous appelons réalité est donc en grande partie stabilisé par un accord implicite. Nous voyons la même chose, donc nous pensons que c'est vrai. Dès l'enfance, nous avons appris à percevoir comme les autres. Nous n'avons pas découvert le monde. Nous avons appris à le lire selon un code commun, jamais remis en question. Alors, ce n'est pas notre perception qui nous a convaincus de la réalité du monde, mais le fait qu'elle soit confirmée par les autres. On pourrait dire que la réalité est un consensus perceptif, un langage partagé plutôt qu'un accès au réel. Ce qui est collectif nous paraît objectif, alors même que cela est et reste une traduction. Continuons notre exploration. Nous avons donc la certitude que nous entendons, que nous touchons, que nous comprenons la réalité. Mais prenons un exemple très simple, une couleur. Nous disons, cet objet est rouge. Mais le rouge n'existe pas dans l'objet. Il n'y a que des longueurs d'onde et des vibrations. Le rouge est une interprétation produite par notre système de perception. L'objet nous apparaît rouge parce que sa surface absorbe la plupart des longueurs d'onde de la lumière, bleu, vert, etc., et ne réfléchit que celles correspondant au rouge. Ces longueurs d'onde atteignent alors notre rétine, où elles sont interprétées par le cerveau comme étant la couleur rouge, et nous disons « rouge » parce que nous obéissons au consensus collectif. Même chose pour le son. Ce que nous entendons comme une musique, une voix, un bruit, n'est à l'origine qu'une variation de pression dans l'air. Autrement dit, ce que nous appelons le monde est déjà une transformation. Alors une question apparaît. Si tout ce que nous percevons est interprété, qu'est-ce que le réel en lui-même ? Pour commencer à répondre, il faut faire un premier déplacement. Nous ne sommes pas face au monde comme devant une image. Nous sommes engagés dans un processus. Notre corps, notre système nerveux, nos sens, ne sont pas de simples récepteurs passifs, ce sont des interfaces actives. Dans le langage de la Kabbalah, on pourrait dire « nous percevons à travers un massar », un écran, une interface. Et ce qui apparaît à notre perception est un « levush », un vêtement, une forme, que le réel revêt pour devenir perceptible. Ainsi, nous ne voyons jamais directement le réel. Nous voyons ce qu'il devient en traversant notre interface. La Kabbalah ne décrit pas seulement des concepts, elle encode des processus dans les lettres elles-mêmes. Intéressons-nous au code Massar. Première lettre. Mem. Voici la lettre des ondes matricielles qui, dans notre fréquence et notre miroir liquidien, fait pour être ensemencé par les flux de lumière. C'est un espace de réception, de gestation, de transformation, d'intégration. Le creuset de l'alchimiste. C'est une zone interfaciale. La deuxième lettre, Sammer. Voici la lettre du point zéro, qui, se faisant vortex, lieu de passage, initie par sa dynamique tourbillonnaire tous les grands circuits de réflexivité de la conscience dans le champ, jusqu'à ses projections holographiques dans les formes du vivant et de l'humain. Elle ouvre des points de passage entre les mondes, comme des trous de verre, pour passer d'un champ fréquentiel à un autre et mettre en lumière des possibilités de structuration. Elle leur offre des champs de stabilisation sans jamais les figer. La troisième lettre. Ici, on assiste à un phénomène de transmutation. L'interface du massar module le flux avant qu'il libère les structures du vivant de leurs contraintes et les révèle à la supralumière d'une vie infinie. Voici donc un très bref aperçu du code de cette conscience interfaciale, de cet écran qui filtre le flux. Mais notre écran individuel spécifique a-t-il bien ses qualités ? Nous verrons cela un peu plus loin. Intéressons-nous d'abord au code de l'vouch. La forme que le réel revêt pour se rendre perceptible. Prenons les trois lettres du code racine. L'âme est le vêtement premier de la supralumière, non perceptible. Son code fait d'elle l'étrange témoin de l'invisible. Elle va, comme un voile, vêtir l'insaisissable et révéler sa présence. La deuxième lettre. Vet exprime un retrait en son propre espace de conscience pour embrasser cette présence, s'unir à elle et se laisser féconder par elle. La troisième lettre. Dans ce code, elle est le jaillissement de la supralumière, l'intensité rayonnante du flux qui révèle et pénètre toute forme pour l'illuminer et l'inviter à devenir illuminante. Même si je ne fais que survoler les codes, vous avez maintenant une idée un peu plus claire de la nature de notre interface de perception. Poursuivons. Massar est donc l'interface qui transforme, module, filtre le flux, et l'vouch, la forme qui apparaît de cette transformation. Ce processus est essentiel puisque le réel ne devient perceptible qu'en prenant une forme structurée, transformée. Je répète, le massar, l'interface, est la zone de transformation et l'vouch est la forme visible de cette transformation. Cela signifie que la réalité que nous percevons n'est pas le réel lui-même, mais le résultat d'une interaction, une rencontre entre un flux et une structure capable de le traduire. Dans la Kabbalah, ce flux, appelé ce flux continu, non limité, non encore structuré. Mais ce flux tel quel n'est pas perceptible. Pour devenir expérience, il doit passer par la zone de transformation du massar, qui, comme le code l'indique, n'est pas un simple écran passif. C'est un lieu actif, un lieu où ce qui descend est transformé, modulé, adapté. C'est une zone de transduction. Ce mot vient du latin « trans » qui signifie « à travers », « au-delà », »,« de l'autre côté » et « ducere », »,« conduire », »,« mener ». Donc, conduire à travers, faire passer d'un état à un autre, la transduction est le fait de transformer un signal en un autre tout en conservant l'information. Cette définition renforce notre processus. La transduction est bien le passage du flux à travers l'interface du massar qui le transforme pour le rendre perceptible. Le flux du réel est ainsi converti en perception. Et cette conversion se fait à travers plusieurs formes et niveaux de conscience. Notre corps liquidien, notre système nerveux, nos sens, nos émotions, notre mental. Chacun de ces niveaux traduit le flux à sa manière. Alors, ce que nous appelons voir, ressentir, comprendre, est en réalité une chaîne de transformation. Le réel n'est pas vu, il est transformé pour être vu. Le réel n'est pas ressenti, il est transformé pour être ressenti. Le réel n'est pas pensé, il est transformé pour être pensé. Et c'est ici que se joue quelque chose de fondamental. Parce que si la perception est une traduction, alors elle dépend de l'état du traducteur. Autrement dit, ce que nous percevons dépend de notre état intérieur. Si l'interface massar est tendue, contractée, perturbée, le monde apparaîtra fragmenté, menaçant, instable. Si l'interface est ouverte, stable, ajustée, le monde apparaîtra cohérent, fluide, vivant. Le monde que nous percevons est le reflet de la manière dont nous traduisons le réel. Cela permet de comprendre quelque chose de très concret. Pourquoi deux personnes face à une même situation ne vivent pas du tout la même réalité ? Pourquoi un même événement peut être vécu comme une menace ou comme une opportunité ? Ce n'est pas le réel qui change, c'est la traduction. Et cela ouvre une perspective essentielle. Sommes-nous vraiment faits pour voir le réel tel qu'il est, alors qu'on sait maintenant qu'il dépasse toute perception directe? Le véritable travail, le véritable yoga, ne serait-il pas plutôt d'affiner notre interface, de libérer le massar des formatages et des déformations, le rendre plus juste, plus stable, aussi transparent qu'un cristal? Lui restaurer sa vraie nature pour qu'il œuvre dans la cohérence depuis une conscience capable de traduire sans trahir. C'est là que des pratiques très simples prennent tout leur sens. Le yoga de la Kabbalah avec la vibration sonore et restauratrice des codes, la méditation avec les mandalas des codes, la respiration consciente, le pranayama yoga, les voyages dans le champ du corps, à l'image du champ de conscience. Le souffle agit directement sur l'interface. Il régule, il détend, il réorganise. Il permet de restaurer une qualité de traduction plus juste. Respirer, ce n'est pas seulement oxygéner le corps, c'est ajuster la manière dont le réel devient expérience. Alors peut-être que la question n'est pas « qu'est-ce que le réel ?» mais plutôt comment le traduisons-nous et surtout pouvons-nous apprendre à mieux le traduire? Parce qu'au fond, nous ne vivons pas dans le réel, nous vivons dans une version du réel qui passe à travers nous. Et plus cette interface devient cristalline, consciente, ajustée, vivante, plus cette traduction devient fidèle. Non pas au sens d'une copie, mais au sens d'une résonance. Alors peut-être que notre psyché n'est pas faite pour saisir le réel, mais pour devenir un instrument capable de le laisser passer, de le laisser œuvrer. Et dans ce passage, le monde apparaît.
Merci, Jordan, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.
Merci Patrick et merci à tous.